On désigne par là, par accaparement de terre, des processus dans lesquels des acteurs privés, effectivement, mais pas seulement, des acteurs publics aussi, des agences parapubliques, qui là du coup agissent au nom de l'État, obtiennent des droits fonciers, des droits sur les ressources foncières et sur les ressources naturelles dont la terre elle, peut être le support, sur des très très grandes surfaces de terre, des très grandes étendues. Il y a des accords qui portent sur des centaines de milliers d'hectares, pour un seul acteur, pour un seul agent économique.
Quels sont les pays ou les continents les plus concernés ?
C'est une estimation qui est toujours très délicate à faire, parce que quand on essaie de regarder dans le détail et de quantifier de manière exhaustive le phénomène, on se rend compte qu'il est très difficile d'avoir les informations précises. Ce sont des accords qui sont faits dans toute opacité. Les gens qui les signent, lorsqu'il s'agit par exemple d'un investisseur étranger privé et d'un État, n'ont pas forcément envie de s'en vanter. Donc avoir une image exhaustive de l'ensemble des accords qui sont passés et de l'ensemble des cessions de droits qui ont lieu est très difficile. Mais néanmoins, il y a des groupes de recherche qui ont essayé de le faire. Et en travaillant par le biais de recoupements entre les recensements exhaustifs qu'ils ont pu faire dans certains pays et puis l'analyse de la presse mondiale, il semblerait que l'Afrique soit quand même de loin le continent le plus visé.
Avec l'Amérique latine ?
L'Amérique latine dans une moindre mesure, oui. Peut-être une chose qui pourrait expliquer ça. Enfin, on est à peu près certain que c'est un déterminant majeur, c'est le coût de la terre en Afrique et la facilité avec laquelle les droits sur la terre peuvent être cédés par les États. Parce qu'en Afrique, c'est en dernière instance l'État qui est propriétaire d'une grande partie du territoire national. Et les utilisateurs du foncier, très paradoxalement, qui peuvent être là depuis des millénaires et avoir conçu, élaboré des systèmes coutumiers d'organisation autour du foncier, sont évincables très rapidement, en toute légalité finalement.
Est-ce que vous auriez un exemple d'appropriation, d'accaparement de terre comme cela, extrêmement parlant, sans qu'on comprenne bien en fait le mécanisme de ce processus?
Par exemple, dans la région dite de l'Office du Niger au Mali, où l'État malien a attribué des concessions, des grands domaines à différents intervenants, différents acteurs, et notamment un groupe privé attaché à l'ex-pouvoir libyen. Et donc cette entreprise s'appelle Malibia. L'accord apporte sur 100 000 hectares ou plus. Et sur le terrain, les travaux ont déjà commencé, notamment les travaux d'élargissement d'un canal visant à permettre l'irrigation de ce territoire-là. Et ce tracé de ce canal-là, les travaux d'élargissement ont conduit à traverser des cimetières, à abattre des maisons, etc. Et évidemment, les terres qui sont en cause dans cette histoire-là ne sont pas exemptes de revendications de la part d'utilisateurs producteurs agricoles locaux. Ça pose d'énormes problèmes en termes de répartition de la ressource en eau. Il a été dit que le contrat octroyait l'exclusivité en période de basse eau à l'entreprise pour irriguer ses plantations. On est là vraiment face à des choix de société qui sont faits à l'emporte-pièce, à la va-vite. Bien souvent sur le préconçu, l'idée, le présupposé que l'exploitation de grande échelle, très mécanisée, est la panacée, va amener du développement. Là où en réalité, nous on constate une éviction des populations, une diminution du nombre d'actifs par hectare. On plaide évidemment nous très fortement pour le renforcement des agricultures familiales et le développement d'une agriculture au travers du renforcement des capacités de ces producteurs-là.
Parce que la population locale n'en bénéficie en rien finalement.
Elle peut dans bien des cas être invitée à travailler dans l'exploitation qui va remplacer leurs terres. Mais là on a un changement de statut très net. L'autonomie de décision sur un certain nombre de choses. On passe du statut de décideur sur son exploitation et des orientations de ses choix de production, les diversités de production qu'on peut mettre en œuvre, à celui de manœuvre, d'exécutant, pour ne pas dire de prolétaire, puisque la recherche aussi par ces acteurs extérieurs ou privés, gros investisseurs, la recherche première, c'est celle de la minimisation des coûts de production, évidemment. Et donc, ils cherchent à payer le moins de gens ou moins cher, et par ailleurs à payer le moins d'impôts, à payer le moins cher possible les terres sur lesquelles on les y met. Ça, c'est sans doute une des clés du phénomène actuellement, de son amplification, de son accélération, c'est que les conditions actuellement offertes par les gens en situation de donner des terres, d'attribuer des espaces à ces investisseurs-là, les conditions offertes sont extrêmement favorables pour l'investisseur d'un pur point de vue financier. On ne va leur exiger d'eux aucun partage des bénéfices qu'ils vont tirer de l'exploitation. On ne va pas exiger d'eux d'être particulièrement vigilants au regard de l'environnement, et ni en termes d'emploi aussi. On a vraiment un abandon complet à l'intérêt particulier de l'investisseur, aux dépens des sociétés, dans la plupart des cas.
Alors cette problématique est certainement l'un des enjeux fondamentaux du XXIe siècle, c'est pourtant une thématique assez méconnue. Quel type de réponse peut-on apporter d'un point de vue juridique, d'un point de vue politique, mais est-ce que déjà il y a une réelle volonté, outre la mobilisation qui peut être citoyenne?
Il semble qu'il y ait une prise de conscience dans un certain nombre d'enceintes internationales et mondiales. C'est un sujet sur lequel beaucoup d'ONG sont mobilisées. C'est évidemment pas, on le constate tous, une préoccupation de l'opinion publique française ou occidentale de manière générale. Peut-être que ça commence à devenir paradoxalement davantage dans les pays les plus visés par l'accaparement. Mais donc je disais, ça commence quand même à être un peu un sujet de préoccupation dans certaines enceintes internationales qui réfléchissent, prétendent réfléchir à des pistes de solutions, d'encadrement de ce qui est en train de se produire. Malheureusement, selon des modalités volontaires, c'est-à-dire qu'on essaie de proposer à des entreprises ou aux États de s'engager à respecter des principes de bonne conduite, de bonne attitude vis-à-vis des pays hauts, des populations, de l'environnement où ils vont intervenir, mais sans aucun dispositif de sanction obligatoire des éventuelles violations. C'est pas contraignant. C'est le cas des directives volontaires de la FAO relatives à la gouvernance responsable de la tenure de la terre et des pêches et des forêts. Il y a là-dedans beaucoup de bonnes idées, de bons principes, les problèmes ont été identifiés pour une bonne part.
Mais ça reste un peu pieux.
Mais voilà, on s'en remet intégralement aux États pour qu'ils adoptent et qu'ils transcrivent dans leur droit interne ces principes-là. Or, de ce point de vue-là, on constate qu'il y a beaucoup d'États qui sont hauts de l'investissement, qui ont des dispositifs légaux qui pourraient être, sur le papier, protecteurs des intérêts des populations en place. Ouais. Mais le problème est celui de l'effectivité, de l'efficacité des instances judiciaires de ces pays-là, de la volonté politique dans ces États-là de le faire. C'est pourquoi nous, on pointe comme un des directions à viser et vers lesquelles pourrait s'orienter le mouvement social, un mouvement social qui fasse le lien entre les utilisateurs, les confrontés concrètement aux accapareurs, mais aussi les opinions publiques de l'Occident, du Nord. Cet horizon, c'est celui d'essayer de bâtir des modalités judiciaires de contrôle des agissements des entreprises au niveau supranational. Que puissent être offerts des recours juridiques au-dessus des États à un niveau transnational pour que se crée un droit, une régulation, un rétablissement des rapports de force qui sont aujourd'hui extrêmement exacerbés en dehors des États.
Qu'est-ce que vous retenez des échanges de ce soir ? Est-ce que vous avez trouvé que la conversation et la participation des différents intervenants a été vive, a été nourrie, ça a été intéressant selon vous ?
Ah oui, je dois dire que le format là, de discussion avec cette vingtaine de participants, il est très approprié parce que tous les participants sont rentrés à un moment ou à un autre dans la discussion et ont fait part d'une préoccupation, d'une interrogation sur le pourquoi, le comment, les pistes de solutions, et souvent avec une acuité, une conscience politique, des problèmes où ils peuvent se résoudre et se nouer, qui je trouve vraiment intéressante. Ouais.
Juste un mot pour terminer sur votre association ACTER, est-ce que vous pouvez nous la présenter ?
Bah, ACTER, c'est une association très jeune, elle va avoir bientôt 7 ans. Elle a été fondée par un réseau international de personnes concernées par les enjeux de gouvernance des ressources naturelles qui en fait interroge les dimensions organisationnelles, politiques autour de l'accès et de l'utilisation des ressources naturelles et qui essaye de mobiliser des capacités d'analyse collective sur des problèmes de cette nature-là, très locaux ou sur des cadres nationaux qui touchent à ces ressources ou voire internationaux, transnationaux. Et qui ensuite, sur la base de cette réflexion, produit des matériels documentaires avec pour objectif de rendre ces informations, ces analyses, ces propositions accessibles au plus large public possible. On essaie de le travailler en 3 langues, c'est pas évident, parvenir à réunir les moyens de travailler dans cette perspective-là, c'est une grande ambition. Mais petit à petit, on parvient à joindre des forces et donc faire comprendre l'intérêt, le sens pour le changement de cette attitude. Et notre analyse collective, on essaye au maximum de la forger dans une perspective pluridisciplinaire et pluriculturelle. On pense que c'est vraiment en croisant les regards les plus divers qu'on peut faire émerger des analyses et des propositions pertinentes nouvelles.
Radio Solidaire, la radio de toutes les solidarités.